marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Et le bachot de Jean,
c'était aujourd'hui, je crois.
Au-delà du bac, les bacs.
Quant au baccalauréat, nous le ferons profondément évoluer. Pour resserrer les épreuves finales autour d'un petit nombre de matières et définir ce qui relève du contrôle continu. Nous aboutirons avant septembre 2018 pour une mise en œuvre complète de cette réforme pour le bac 2021.
Édouard Philippe, sa déclaration de politique générale. Donc d'abord, il y a une bonne nouvelle. Il nous est annoncé que le nouveau bac coûtera moins cher. Les établissements scolaires ne consacreront plus tout le mois de juin à l'organisation des 10, 12, 15 épreuves qui les mobilisent présentement. C'est au mois d'avril que l'examen aura lieu autour d'une discipline majeure et d'une mineure que chaque élève aura choisi. Le contrôle continu pourra compter désormais pour 40% du résultat, mais il faudra pondérer les 10 résultats. Il y a donc aussi une mauvaise nouvelle. L'harmonisation mobilisera l'administration pendant des semaines et elle coûtera cher. Un nouveau baccalauréat pour construire le lycée des possibles. Ah, la poésie inimitable de la rue de Grenelle. La question est aussi de savoir quels seront les établissements d'enseignement supérieur dont l'accès sera impossible à certains bacheliers. Pour la moitié d'entre eux, ils seront titulaires d'un bac général, pour 20% d'un bac technologique, pour 30% d'un bac professionnel. Au total, ils seront 30 ou 40 000 de plus que l'an passé. Il nous est dit qu'avec les établissements d'enseignement supérieur, ils se choisiront les uns les autres. La formule dissimule certainement beaucoup d'inégalités. Le Conseil des ministres prendra connaissance mercredi du contenu précis de la réforme, mais le débat est appelé à s'élargir. Chaque Français à son métier n'en ajoute-t-il pas au moins deux autres, délégués à la sécurité routière, un, on l'a vu récemment à propos de la limitation de vitesse, mais aussi deux ministres de l'Éducation nationale.
La marche de l'histoire sur France Inter.
Avec Claude Lelièvre, bonjour.
Bonjour.
Historien émérite de l'éducation depuis la nuit des temps. Et puis, je voudrais signaler que vous avez été professeur pendant un quart de siècle à Paris, mais que vous continuiez à habiter Amiens. Vous étiez un turboprof à l'envers. Et puis, vous êtes un grand blogueur devant l'Éternel, Mediapart, EducPro, etc. Bon. Très rapidement, le premier 19e siècle, le bac date de 1808, premières épreuves en 1809, écrit, oral ?
Que de l'oral.
Que de l'oral.
Que de l'oral. L'oral est hégémonique au départ, et au fond, deux ou trois professeurs d'université interrogent les impétrants pendant 30 à 45 minutes sur les auteurs au programme de première et de terminale.
Avec, je crois qu'on disait rhétorique.
Alors on disait rhétorique à l'époque.
Au 19e siècle. Avec une dominante très longtemps littéraire et dans les lettres, le latin.
Quo facto videmus infra altilia et sumina leporemque damus omnes plausum et res electissimas ridentes.
Et c'est seulement quand elle avait passé le baccalauréat S lettres qu'on pouvait passer au début le bac scientifique qui ne s'est autonomisé que sous le Second Empire.
Tout à fait. Ça a été une longue histoire. Et finalement, il faudra attendre le milieu des années 60 pour que les bacs sciences dominent les bacs littéraires. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on pouvait savoir le latin à l'époque, mais ne pas être bon en orthographe. Du coup, on s'aperçoit que ceux qui sont bons en latin ne sont pas nécessairement bons en orthographe et on met un peu d'écrit au cours de l'interrogation orale, une sorte de petite dictée où on fait une petite rédaction impromptue ou une version en 1830.
1874, dernière date, le bac scindé en deux séries d'épreuves, la philosophie étant réservée à la deuxième partie du bachot et ayant un rôle très important.
Alors, petit à petit, des disciplines arrivent. Il y a tellement de disciplines qui arrivent, l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, etc., qu'on scinde le bac. Il y a un bac en première, il y a un bac en terminale, et en 1974, il y a autant d'oral que d'écrit. C'est-à-dire que pour chaque discipline, on passe un écrit et un oral. C'est l'époque de la parité oral-écrit.
La Quatrième République, vous voyez, j'enjambe les périodes à grands pas, n'a pas fait grand-chose dans le domaine de la réorganisation du bac. Elle était toute occupée à la querelle de l'école publique et de l'école catholique. Et puis, les enseignants, syndicats, partis socialistes se réservaient la réforme de l'éducation nationale, ce qui faisait qu'il n'y en avait pas. Et tout change. Tout change à partir des années 1960. Alors, juste une petite séquence nostalgie. Avant donc les grandes transformations de la Ve République, Léon Zitrone, devant la Maison des Examens, c'était rue de l'Abbé de l'Épée, à Paris, guette les jeunes filles qui peuvent passer officiellement le baccalauréat depuis...
Elles le passent depuis un certain temps.
1861, la première.
Mais
oui.
Elles ont le droit d'avoir une formation spécifique pour le bac à partir seulement de 1924. Parce qu'au fond, les jeunes filles ne devaient pas aller normalement à l'université. Or, le baccalauréat est un examen d'entrée à l'université.
Mademoiselle, en philosophie, il y avait trois sujets de morale. Quel est celui que vous avez choisi?
Le troisième.
Le troisième, c'est-à-dire quel est, à votre avis, le plus impérieux des devoirs? Quel est-il, mademoiselle?
Le respect de la vie humaine.
Vous, mademoiselle, vous semblez bien jeune pour être en deuxième partie. Quel âge avez-vous?
J'ai 16 ans et demi.
Mais c'est très bien, mademoiselle, vous êtes en avance. Vous avez l'air de trouver cela naturel.
Non, mais...
C'est tout à votre honneur d'ailleurs. Quel est le sujet que vous avez pris?
J'ai pris le premier, là.
C'est-à-dire l'idée d'une faute inexcusable et impardonnable vous paraît-elle admissible? Mademoiselle, vous, dans votre composition française, pour la première partie du baccalauréat, je le rappelle, quel est le sujet que vous avez choisi?
Le premier de Vigny.
Le premier de Vigny. Vigny écrit dans le journal d'un poète « J'aime peu la comédie qui tient toujours plus ou moins de la charge et de la bouffonnerie ». Qu'avez-vous conclu?
Je trouve que la vie est une chose sérieuse qu'il ne faut pas prendre à la rigolade.
Je ne veux pas vous vieillir, Claude Lelièvre, mais c'est à peu près à cette époque-là que passez le bac.
C'est à cette époque-là, en 1960, que je passe un premier bac et puis ensuite la seconde partie en 1961.
Alors c'est un brevet de bourgeoisie aussi, le bac. Et puis c'est une institution comme le mariage, le service militaire et la communion solennelle dans une France encore catholique.
C'est sûr, c'est un moment important. Remarquez qu'il était important depuis longtemps. La preuve, c'est qu'il y avait une industrie de la fraude dès les années 1900, comme quoi les gens n'étaient pas automatiquement sages. Et deuxièmement, on a dû punir de 3 ans d'emprisonnement et de 10 000 francs hors d'amende ceux qui fraudaient. Donc on fraude depuis longtemps au baccalauréat. Mais ce que je veux dire, surtout, c'est dans la période à laquelle j'ai participé, c'est une période de bouleversement. Une période de bouleversement, entre autres, parce qu'on passe de 10% d'une classe d'âge qui obtient un baccalauréat général à 20% d'une classe d'âge. Il n'y a jamais eu une telle accélération. On parle de la massification du bac, mais la grande massification des bacs généraux, c'est la période gaullienne.
Alors là, les autorités se retrouvent devant des décisions urgentes à prendre. On va entendre le premier ministre du général de Gaulle, Georges Pompidou, agrégé, tenant beaucoup à la culture classique. Voilà quelqu'un qui n'était pas un fraudeur.
Il a fraudé pour une Parisienne qu'il aimait bien, qui était 3 ou 4 rangs devant lui, et il lui a fait sa disserte.
Mais c'est pas de la fraude, ça, c'est de la galanterie, comme
c'est
dirait
de la galanterie,
Léon Zitrone.
Mais du coup, il a eu que 10 au bac à sa disserte, qu'il n'avait plus qu'une heure pour la faire.
Alors, Georges Pompidou travaillait sans effort, vous voyez, mais il considérait avec un peu de compassion les efforts que devaient faire les autres. C'était un moment où existait encore, après le bac, en première année d'université, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la remédiation, ça s'appelait plus poétiquement autrefois la propédeutique.
On a beaucoup dit que nous supprimions le premier bachot, mais nous supprimons aussi la propédeutique et l'examen final de la propédeutique. Car voyez-vous, la vie de nos enfants devenait une véritable course d'obstacles qui fait penser aux courses de chevaux, de stipes. La vie d'un enfant, c'est comme le Grand Prix d'Auteuil. Après la haie, il y a la barrière. Après la barrière, il y a la muraille. Après la muraille, il y a la rivière. Après le premier bachot, il y a le second. Après le second, il y a la propédeutique. Après la propédeutique, arrive la licence. Songez que pour avoir une malheureuse licence, un étudiant passait 6 et 7 années constamment guetté, menacé par un examen. C'était quelque chose d'absolument harassant pour les maîtres et pour les candidats. Et c'était, en fin de compte, la négation de la culture et la négation de la formation professionnelle. Seulement, voyez-vous, ceci nous oblige à faire du bachot un examen extrêmement sérieux. Ça, je le sais. Et en effet, ce sera la sélection et la sélection pour l'enseignement supérieur.
C'est ça qui était bien chez Pompidou. Il considérait que le travail ne devait pas être visible, qu'il ne fallait pas s'essouffler et qu'il fallait le dissimuler. Bon, ça, c'est son
mais
côté.
Mais ça, c'est très traditionnel en France. Parmi les élites, on est élu. Et donc, il ne faut surtout pas travailler, puisque c'est la grâce. C'est la grâce divine. Et on se cache pour travailler. Moi, j'ai eu des collègues qui se cachaient le soir pour travailler et lire le lettre léant dans le texte.
Le bac est quelque chose de sérieux. C'est un examen sérieux parce qu'il donne l'accès à l'université. Ou bien alors, ce n'est plus qu'un certificat de fin d'études, et il faut le dire.
Voilà, et c'est d'ailleurs, Pompidou était partagé, il disait, bon, si le bac doit être donné à pas mal de monde, ça doit être une sorte de certificat de fin d'études secondaires. On y va peut-être d'ailleurs. Si c'est la question de rentrer à l'université, eh bien, il doit être plus important. Entre parenthèses, il faudrait quand même se rendre compte que, entre le début napoléonien et la période où nous nous trouvons en 1960, on est passé à un autre type de jury, puisque le jury n'était qu'universitaire pendant pratiquement tout le 19e siècle. C'était donc un vrai examen d'entrée à l'université. Et puis ensuite, dans les années 60, à part un président un peu évanescent qui est là pour des raisons juridiques...
C'est une affaire de prof du secondaire.
C'est des profs du secondaire. Donc, est-ce que oui ou non, on prend la réalité des choses en compte, ou bien, comme souvent en France, c'est le rite, c'est la légende, c'est le mythe qui l'emporte.
Alors là, on parle du bac général, qui devient A, B, C, D, E. Avec une hégémonie progressive du bac à orientation scientifique dans ces années-là. Mais il y a les bacs technologiques, parce que dans les années 60 sont créés les lycées techniques, qui vont devenir dans les années 1970 les lycées d'enseignement professionnel. Alors, le bac technique, le bac technologique.
Alors, en 1965, avant même qu'il y ait transformation des bacs, il y a une grande réforme où on installe le système des séries sur lesquelles actuellement on réfléchit. Et on installe donc 4 séries pour les baccalauréats généraux, A, B, C, D, E, ça en fait 5 d'ailleurs, et puis on en installe 3 pour les baccalauréats technologiques, F, G et H. Donc nous avons un système du coup qui devient sériel, dans lequel nous sommes toujours. Et puis, ces bacs-là vont effectivement se passer. N'oublions pas que normalement, les bacs technologiques devaient fournir ce qui avait été installé un petit peu auparavant, c'est-à-dire les sections de techniciens supérieurs et les IUT. Alors que les bacs généraux devaient aller vers la licence et ensuite la maîtrise.
Les bacs technologiques, donc, c'était pour les cadres intermédiaires, voilà, qui recevaient les supérieurs. Ordres et les transmettaient aux exécutants.
Voilà, à un niveau intermédiaire. Donc la destination des bacs était normalement très différente et l'alimentation aussi, ne l'oublions pas pour plus tard.
1985, ça c'est très important, c'est la création du bac professionnel. Époque, Laurent Fabius, Premier ministre, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Éducation nationale, Roland Carras, secrétaire d'État à l'enseignement technique, sont trois noms très importants qui ont porté tous les trois ce choix d'employer le mot « bac ». Pour le bac professionnel, c'était pas joué d'avance.
Ce n'était pas joué d'avance et d'ailleurs ça a posé d'une certaine manière problème. L'idée de Chevènement, c'était qu'il y ait trois bacs, disait-il, d'égale dignité. Ça ne veut pas dire d'égale
difficulté.
Difficulté, ni même, surtout, d'égale destination. C'était pas pour les mêmes. Parce que lui, il ajoutait un troisième front, c'était le bac pour les ouvriers. Non pas pour que les ouvriers deviennent techniciens supérieurs, mais qu'ils aient un bac parce qu'ils étaient admiratifs des ouvriers japonais.
On entend Jean-Pierre Chevènement.
L'objectif, c'est toujours de faire 80% de bacheliers, un petit peu comme ça se passe au Japon actuellement.
De niveau bac, pas tout à fait de bacheliers, parce que tous ne sont peut-être pas bacheliers, mais il faut que, en effet, 80% d'une classe d'âge puisse aller à ce niveau de formation, comme c'est le cas aux États-Unis, comme c'est le cas au Japon, comme c'est le cas même en Allemagne. Et en diversifiant les voies de formation, baccalauréat scientifique, baccalauréat littéraire, baccalauréat technologique, mais aussi baccalauréat professionnel, comme ceux que nous allons installer, en particulier dans ce lycée, mais aussi dans tous les autres.
La moitié de la jeunesse de France est engagée dans la filière de l'enseignement professionnel et technique, la moitié de la jeunesse de France, dans le second degré et dans ses voies. C'est pourquoi il faut qu'on ait aussi une pensée pour eux, parce que la plupart du temps, on les oublie, bien à tort, parce que ce sont les plus nombreux et les plus hautement qualifiés, car évidemment, un bac professionnel est en moyenne d'un niveau beaucoup plus élevé qu'un bac général, je suis obligé de le rappeler à tout le monde. Voilà. Allez, bonne chance à tous, soyez bons, parce qu'on a besoin de vous.
On a ajouté en prime Jean-Luc Mélenchon, parce que les socialistes prennent parfois plaisir à l'appeler monsieur le ministre, parce qu'il a été ministre de l'enseignement technique.
Oui, et d'ailleurs, il a voulu surtout monter aussi en dignité cette voie. Au fond, de ce point de vue-là, il était l'héritier de Chevènement. Pas automatiquement de faire qu'il y ait des destinations autres, ni un rôle autre, mais une dignité, une reconnaissance morale autre, symbolique.
Et maintenant, il y a 90 spécialités de bac professionnel. On a noté celle-ci, c'est notre réalisatrice qui tient à souligner la qualité de cette spécialité, c'est environnement nucléaire, donc programme musical ad hoc.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le bac, quelle histoire avec Claude Lelièvre. Alors on va parler oral maintenant. Vous nous avez dit donc que l'oral est à la base de l'histoire du baccalauréat, premières éditions.
Alors il faut bien voir les différentes séquences. Au départ, l'oral est hégémonique. Ensuite, au cours du 19e siècle, c'est parité écrit-oral. Un oral par écrit. Et puis, quand il y a la poussée dont on a parlé tout à l'heure, au moment de la période gaulienne, eh bien, il faut alléger les épreuves. Il y a trop d'épreuves, c'est trop long déjà. C'était trois fois plus long par élève qu'actuellement. Et pourtant, ça se faisait, sous la période gaulienne, qui n'était pourtant pas un rigolo. Donc, je m'interroge aussi sur cette question, est-ce que c'est lourd ou pas lourd? C'était lourd de mon temps. Et pour tout le monde. Mais ce qui est remarquable, c'est que dès le départ, on retire l'oral pour pratiquement toutes les matières. On allège et il n'y a plus d'oraux dans les différentes disciplines, sauf pour les langues vivantes et pour le français. Donc ça, c'est la première chose. Et on retire des sessions de rattrapage où il y avait écrit et oral et on le remplace par des oraux de rattrapage. Alors l'oral prend une nouvelle fonction qu'il n'avait pas eue, il n'est plus hégémonique, il n'est plus paritaire, il est rattrapeur. Oui, mais enfin, c'est quand même important. Quand on dit actuellement qu'il n'y avait pas d'oral au bac, mais c'est une fumisterie historique. Il y a des gens qui doivent repasser à l'école pour être inscrits en histoire de l'éducation et des hommes politiques importants.
Et il y a même eu un oral exclusif, une année précise, à la fin de l'ère gaulienne, il y a 50 ans, en 1968, on n'avait pas pu monter les épreuves écrites à cause des grèves qui touchaient aussi l'éducation nationale. Philippe Cobert s'en souvient dans un morceau de bravoure.
Quel est votre nom, s'il vous plaît? Faure. Ferdinand Faure. Oui, Faure, en effet. Eh bien, monsieur, voici votre sujet, la Sibérie.
Il faut utiliser la carte de géographie qui est là, ainsi que le tableau noir. Donc, la Sibérie est là, devant nous, sur la carte du monde. Nous avons au sommet de la Russie un grand pays bleu qui nous apparaît sous cette appellation, ce patronyme de Sibérie. Je m'excuse, je fume, mais c'est que je connais mon sujet. Dites fort, vous arrêtez là. Maintenant, ça suffit. Vous faites quelques pas, vous faites des signaux de fumée. Vous mangez votre crayon, vous prenez 3 heures à prendre des notes, vous me fumez dans la gueule, n'exagérez pas fort. Nous sommes à 68, c'est vrai, mais vous allez m'éteindre ça. Écrasez ça, fort, écrasez. Donc, la Sibérie, qui est une terre extrêmement étendue dans tous les sens du terme, mais également de sa longueur, comme d'ailleurs de sa largeur, présente une somme de particularités incalculables. Lesquelles, par exemple? Premièrement, dans son sommet vers le nord, que voit-on? S'il vous plaît, toc toc toc, que voit-on? Je n'en sais rien fort, je suppose que vous allez me le dire. Bien sûr. De riches gisements de pétrole qui poussent comme des... comme des champignons. Champignons? Oui, tout le long de la côte orientale qui descend par là vers la gauche jusqu'à l'Australie. Et puis alors, beaucoup plus loin vers la campagne sicilienne. Mais alors là, qui n'est plus du tout la Sibérie.
C'est une épreuve pour l'examinateur, l'oral aussi, pas seulement pour l'examiner. Hein.
C'est une épreuve.
Mais il faut.
Est-ce que je pourrais dire un petit mot parce que dans la légende, on dit que ça a été un baccalauréat donné. Alors c'est assez compliqué parce que le taux des reçus a été de 82%. Alors certes, c'était beaucoup plus important que le taux de l'année précédente où il y avait 62%. Et le taux d'après, où il y a eu 66%, car à cette époque-là, le taux des reçus était de l'ordre des deux tiers.
Comme quoi, c'est pas de l'ordre de la légende.
Mais 82%, sauf que maintenant, on en est à 91%.
Oui, pour
petit détail de l'histoire.
Pour le bac pour technologique les bacs et pour et le bac général, et, pas pour le bac
et
4, pro.
Et 80% pour le bac pro.
Je reviens à l'oral. Aujourd'hui, il y a un film qui a beaucoup de succès, c'est Le Brio, vous savez, Daniel Auteuil. Mm-hmm. Coach Camélia Jordana, le brio, la tchatche, c'est ce qu'on reproche au projet de donner à l'oral une grande place.
Alors, justement, ça, c'est pour moi une préoccupation, parce que au lieu d'aller prendre un modèle italien, où c'est peut-être aussi la tchatche qui est une traduction...
Attention aux légendes, Claude Lelièvre.
Oui, je pense que c'est légendaire. On ferait peut-être attention à savoir quelles ont été les forces et les faiblesses de nos oraux à nous et d'en tirer des leçons. Et plutôt aussi de parler d'un grand oral. Alors ça flatte l'ego national, là. C'est parce que grand oral, ça veut dire grandes écoles, donc tout le monde passe par les grandes écoles puisqu'on passe à un grand oral. Donc, une nouvelle fois, il y a du symbolique. Je préférerais l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on se pense comment on va préparer les enfants, en particulier des enfants d'origine populaire, éventuellement, d'ailleurs, les filles par rapport aux garçons, parce que les garçons, éventuellement, ont plus de superbe dans le langage, et surtout les garçons de milieux privilégiés. Et comment on va préparer les enseignants à enseigner l'oral? Parce que dans leurs études, ils ne rencontrent pas souvent l'expression orale, eux-mêmes.
Alors, on met en avant, parce qu'il a été récemment panthéonisé, et que l'histoire doit surplomber les réformes du baccalauréat, les déclarations de Jean Zay, l'art de discuter, de mener une controverse, fut-elle d'ordre pratique pour mettre en ordre ses arguments et vaincre sa timidité? On ne fait jamais de place à cela dans l'éducation nationale, disait l'ancien ministre
oui,
de l'éducation nationale.
Oui, je pense nationale. Que pour l'essentiel, ça reste vrai. Et on s'aperçoit que les occasions... alors, on fait maintenant un peu plus quand même d'exposés collectifs. Donc ça, c'est quelque chose. Mais au fond, on se demande toujours si c'est pas pour un peu amuser la galerie. C'est vrai, au fond, c'est sérieux quand c'est de l'écrit.
Mais quand on faisait passer l'oral, on avait devant soi le dossier scolaire du candidat, et donc, dans cette occasion, au moins, l'anonymat n'était pas impératif, et le contrôle continu, d'une certaine manière, était présent. Ah, le contrôle continu. Encore une version un peu légendaire d'un conseil de classe dans un film de Cédric Clapiche.
Monsieur Tomasi. Ah bon, bah, je vois qu'en dehors des mathématiques, il n'y a aucune note.
Je ne dis rien, vous savez ce que j'en pense.
Ah, franchement, Tomasi, j'ai jamais su quoi en faire. S'il n'est pas capable de s'adapter au système éducatif, je ne vois pas pourquoi on devrait faire des efforts pour le garder.
En voilà un qui aurait eu intérêt à arrêter ses études en troisième et à apprendre un métier.
Vous rêvez d'une classe de petits soldats bien gentils. Là, vous tombez sur quelqu'un de différent et vous lui donnez aucune chance.
Il n'a pas tort, il faut être à l'écoute.
Bon, et puis, parlons du présent. Tomasi est en terminale, il va passer le bac.
Pardon. J'ai entendu dire et répéter en classe qu'il se fichait éperdument du bac.
Il faut intéresser le jeune. N'oublions pas qu'il a 18 ans, il est plein d'une énergie débordante, bon, qui a besoin à la fois d'être canalisé, mais libéré en même temps. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune ?
Enfin, quand je dis représentation légendaire, on entendait ça dans les conseils de classe. Hein.
Oui. Ce qui est remarquable pour l'historien que je suis, c'est que les épreuves du bac n'ont pas arrêté de changer.
Ouais.
C'est une session, ça, oui. Deux sessions. Oui. Et ceci. De l'oral, pas de l'oral, etc. Sauf sur un point, la
pas
question de la prise
continu.
En compte officielle du contrôle continu. Et il y a eu pourtant des tentatives, hein. Émile Combes, en 1890, par exemple. Et pourtant, c'était quelqu'un qui surveillait le privé. Parce que une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu, pendant très longtemps, de réflexion possible sur la question du contrôle continu, c'était la place qu'on allait donner au contrôle continu dans les établissements privés.
Mais les notations ne sont pas les mêmes selon la répartition géographique, la place et le prestige des établissements scolaires. Il va falloir monter toute une administration de normalisation, comme dans l'administration allemande pour l'abitur, l'équivalent du bac en Allemagne.
Moi, je suis très surpris de cela parce que je suis dans un pays où je me demande s'il y a des microclimats ou pas. Au niveau de l'université, tous les examens sont d'État et ils sont administrés par les professeurs qui évaluent leurs élèves dans leur maison universitaire. Et on ne dit pas que c'est un examen maison. Quand les professeurs de lycée recrutent chez eux pour les classes préparatoires aux grandes écoles, pour les STS, ils recrutent sur dossier. Où ils connaissent, et c'est 50% des admissions dans le supérieur actuellement sont faites avant tout sur dossier. Alors, de qui se moque-t-on quand on parle de ça ? Alors, c'est un vrai problème, mais si on dit que c'est un vrai problème, alors c'est un vrai problème à l'université, c'est un vrai problème pour le recrutement des post-bac. Je trouve là qu'il y a une sorte de double langage ou d'hypocrisie qui me pose question.
Je reviens à l'amiénois de cœur que vous êtes, et de statut depuis 1974. Vous savez bien que les résultats en Picardie sont moins bons que les résultats en Bretagne. Alors, des péréquations sont-elles nécessaires ? Et après,
mais à
le choix...
Et dans mon université de Picardie,
et le choix, justement,
admettre une péréquation par rapport à l'université de Rennes.
Ben vous savez ce que dit la doyenne de la fac de droit d'Amiens. Oh, ils resteront à Amiens parce que ça coûte trop cher à Paris, et puis c'est un peu dangereux, Paris.
Oui. Cela dit, vous savez, il y en a qui rusent de ça. Parce que selon les types d'universités, c'est plus ou moins difficile de faire ses études de droit ou de médecine, etc. Mais une fois qu'on est médecin ou qu'on est, on est avocat, eh bien, tout le monde s'en moque. C'est peut-être fâcheux, mais c'est ce qui se passe déjà. Et ce n'est pas un petit contrôle continu à 40% au niveau du bac qui va être révolutionné l'ensemble du système français, alors que déjà, au plus haut, il fonctionne comme ça.
Je ne sais pas si vous allez convaincre tous les syndicats enseignants. Vous savez à quelle occasion tous les syndicats enseignants ont été, c'est unique dans l'histoire, à peu près d'accord avec une réforme du bac ? 1985, au moment du bac pro, les syndicats enseignants étaient plutôt pour.
Oui, parce que c'était avant tout, d'ailleurs, Chevènement disait que c'était avant tout une revalorisation de l'image et du corps des enseignants du professionnel.
Oui, qui se sont retrouvés avec le même niveau avant de rémunération.
Avant même leurs élèves.
Merci à vous, Claude Lelièvre. Demain, nous parlerons aussi des années 60 avec Guillaume Cuchet, qui publie un livre qui va susciter des discussions passionnées. C'est à ce moment-là que se serait effondrée la pratique religieuse du catholicisme en France. L'émission a été réalisée par Sonia Leglen, avec Ilinka Negulesco, Franck Olivard, Frédéric Martin. Et à la technique, c'était Antoine Teboul. Alors, leçon de géographie tout à l'heure, Mathieu Vidard, oral de géographie dans la tête au carré.
Oui, on va parler vieille croûte d'ailleurs, Jean, puisqu'on s'intéresse à la formation des continents.
Oui, vieille croûte, enfin, je ne sais pas si c'est exactement le mot qu'il faut employer. Ce sera donc dans un instant, après 14h.